cours de critique par le père Marie-Dominique Philippe, le 19 novembre 93 à Saint-Jodard.
Je réponds à deux questions, cours de critique. La comparaison, dans quelle mesure, de quelle manière, dans quelles conditions pourrait-elle être instrument de la philosophie réaliste? Comment éviter le déraillement de la voie qui mène à la découverte de la vérité en comparant ce qui n'est pas comparable? Confère Cain qui louche. Le démon qui compare l'homme à Dieu. Oui. Qu'est-ce que c'est que la comparaison? Au plan philosophique, on compare deux choses. On ne peut comparer deux choses que s'il y a quelque chose de commun entre les deux. Si vous êtes en face de deux réalités absolument diverses, vous ne pouvez pas comparer. Alors, l'avantage de la métaphysique, c'est qu'elle atteint l'être. Et tout ce qui existe est. Donc, vous pouvez comparer toutes les réalités qui existent. C'est le regard métaphysique qui s'étend à tout. Mais sous un point de vue particulier, l'être. Pas sur d'autres points de vue, la nature. Vous ne pouvez pas dire en métaphysique, je peux comparer la grenouille et l'éléphant. On peut comparer, c'est évident. Mais ça ne donnera pas grand-chose. Pour qu'une comparaison puisse aboutir, il faut que le ti koinon, ce qu'il y a de commun, soit suffisamment puissant pour qu'on découvre deux contraires. Comparer deux contraires, ça nous aide beaucoup. Parce que la comparaison est toujours un lieu intéressant. Quand on fait une topique historique, c'est le lieu des comparaisons. Voir ce que tel philosophe a dit sur la liberté, sur tel autre sur la liberté. On compare Descartes et Aristote. Comparer Descartes et Aristote, où y a-t-il le point commun? Où y a-t-il la diversité? La diversité, elle est facile, puisqu'on a vu l'ordre des interrogations. C'est très fondamental. Il y a quelque chose de commun, c'est que il y a quand même l'acceptation du cogito de la pensée des deux côtés. Il y a l'acceptation de l'idée et du concept, et ainsi de suite. C'est pour ça qu'on peut faire des comparaisons. Alors, la comparaison, dans la mesure où la comparaison prépare le problème, elle est le lieu de la dialectique, ce que dit Aristote. Elle noue le problème. Comparer nous aide. Ça c'est sûr, on ne peut pas nier. Donc, on montre. Ce qui n'est pas comparable, justement parce qu'il n'est pas comparable, où il transcende, il dépasse tout, il est infini, où il est en dessous, infra. Pouvez-vous comparer l'être réel et les lettres de raison. Oui, puisque c'est être. Et vous cherchez quel est le point de contact qui est entre l'être réel et l'être de raison. C'est tout à fait divers. Donc, c'est tout à fait divers, l'être réel, l'être de raison. L'être de raison, l'universel. L'être réel, ce qui existe, ce qui est. Comment comparer les deux? Quel est le point de contact? La relation. La relation peut être être réel et être de raison. C'est par la relation que je peux voir le lien qui existe entre l'universel et le réel. Donc vous voyez, c'est une question très vaste celle-là. C'est une question de méthode. Où situer la comparaison dans ma recherche philosophique? Je situe la comparaison dans ma recherche philosophique dans une topique historique. Ça repose toujours de comparer, par exemple, la philosophie heideggerienne et la philosophie réaliste d'un Aristote. Comparer Platon et Plotin. C'est reposant la comparaison, parce que c'est très humain. On avance par comparaison la plupart du temps. Mais on ne peut pas rester dans la comparaison. Il faut nécessairement, pour rechercher la vérité, revenir à la réalité existante. Parce que la comparaison, c'est vous qui la faites. Hein. Vous comprenez, entre Descartes et Aristote, c'est pas Aristote qui a fait la comparaison. L'instinct prophétique d'Aristote dit oh, il y aura derrière moi et après moi un Descartes français qui va tout inverser. Non, vous ne pouvez pas prévoir qu'on inverserait ce qu'il a dit. Mais Descartes existant, Aristote existant, je peux comparer puisque lui-même compare. Alors, personne ne peut nier que la comparaison existe. Et ce que je peux voir, c'est les conséquences de cette comparaison. Mais qu'est-ce qui va me dire où est la vérité? C'est pas la comparaison. La comparaison nous le problème. Voilà. C'est extrêmement intéressant, tu vois. Moi, je dis personnellement, parce que je crois l'intérêt est divers selon chacun d'entre nous. Il y a des gens qui trouvent des choses très intéressantes, et puis l'autre dit non, je comprends pas. Oui, parce qu'on est dans la comparaison, c'est le point de vue subjectif, c'est évident. Cain s'est intéressé beaucoup à Abel, et il a comparé. Et Abel n'a pas comparé. Donc l'attitude de Cain n'intéressait pas Abel. Quand il adorait, il était reclus en Dieu. Et quand nous adorons, nous ne regardons que Dieu. C'est le prof de l'adoration. D'être reclus en Dieu. Donc, c'est Dieu seul. C'est ça le problème de l'adoration. Donc, celui qui adore accepte d'être qu'avec Dieu et n'être que pour Dieu. Mais Cain, lui, compare. Vous n'avez qu'à réfléchir, quand vous comparez, vous quittez le réel. Et vous prenez une attitude subjective. C'est normal dans toute comparaison. Je suis responsable des comparaisons que je fais. Et je peux les justifier. Ou au contraire dire, oui, c'est purement fantaisiste. Mais je peux les justifier. Pour que je justifie une comparaison, il faut tout le temps qu'il y ait un lieu commun, un contact. Qui peut être très ténu. Le contact entre la relation réelle et la relation de raison est très ténu, puisque c'est la relation, l'être le plus ténu. C'est du reste pour ça qu'elle peut faire ce lien. Mais s'il n'y avait pas relation raison réelle, je ne pourrais pas comprendre. soupçon présuppose la relation réelle et se fonde sur la relation réelle. Donc il y a quelque chose de commun. Mais la comparaison ne me conduira jamais directement à la vérité. Si ce n'est de dire « pour moi, c'est là la vérité ». Ah très bien, soyez loyal. Pour moi, donc, c'est la sincérité. Quand je dis « pour moi, c'est là la vérité », c'est la sincérité. Cherchez la vérité objective. Cherchez la vérité telle que vous la présentez à tout le monde. Quand vous ayez, vous, votre piste de vérité, très bien, j'en suis très heureux. Continuez. Puisqu'il y a des voies différentes. Je dis la comparaison n'est pas une voie qui conduit directement à la vérité. Puisqu'il y a l'élément subjectif qui fait la comparaison. Sauf quand j'ai un Descartes qui se compare à Aristote. Ah, là, j'ai un élément objectif. Descartes dit ça. Quand j'ai découvert dans ce lieu chez Descartes, j'ai jubilé intérieurement, intellectuellement. Parce que là, on tient le lapin. Les deux oreilles, on le tient. Il a dit ça. Ah, tout s'explique. Tout Descartes s'explique par ça. C'est pour ça que c'est très curieux. C'est parce qu'ordinairement, on n'étudie pas Descartes en connaissant Aristote. On étudie Descartes pour lui-même. Alors, on ne voit pas comment le saisir. Et c'est pour ça que ça fait des interprétations de Descartes très, très différentes. J'ai beaucoup étudié Descartes parce que ça m'intéressait. Comme lieu. Alors vous avez des interprétations de Descartes, mais qui sont tout à fait différentes. C'est pas étonnant. Parce qu'il se veut clair, Descartes, il n'est pas clair. Commencez par l'idée d'infini, vous savez, c'est pas très clair. Moi je ne sais pas, mais c'est pas clair du tout pour moi l'idée d'infini. Parce que est-ce que ça existe ou est-ce que c'est purement imaginatif? Pour moi c'est imaginatif. Je n'ai pas d'idée d'infini. C'est imaginatif, l'idée d'infini. Alors commencez par l'idée par une imagination. Celui qui dit qu'il veut la clarté, c'est pas clair l'imaginaire. Par définition, c'est le brouillard. C'est toutes les faits, c'est tout ce que vous pouvez dire. Alors là, vous comparez toutes les traditions. Alors ce qui est intéressant, vous voyez, c'est de voir que la comparaison dans une philosophie réaliste qui cherche la vérité, c'est que la comparaison est un moment très important pour nouer le problème, le moment dialectique. le moment à quel lieu on est dans la recherche. C'est pour ça que je vous disais hier, il faut poser vos questions. Et non pas essayer de les, vous voyez, de les prendre dans un... Non, il faut se poser. C'est ça qui libère l'esprit. Et c'est ça qui nous permet de progresser. On progresse dans la mesure où on pose des questions. une relation nouvelle. Et la relation peut être réelle ou peut être de raison. Et donc je ne sais pas si l'intuition touche quelque chose de réel ou si c'est moi qui, en raison de telles circonstances particulières, ai saisi cette relation. Un peu. aussi bien d'une recherche analogique que d'une recherche dialectique. Mais dans une recherche analogique, la diversité, vous voyez, je ne dis pas la différence, je dis la diversité est première, elle est qualitative. Et j'insiste sur cette diversité en essayant de saisir, au-delà de cette diversité, ce qu'il y a de commun. Donc, au-delà de la diversité, j'essaie de saisir la conformité, ce qu'il y a de commun, ce qui unit. Dans la pensée dialectique, c'est l'inverse. Je regarde la diversité pour elle-même en tant que cette diversité exclue. Et cependant, j'essaie de retrouver quelque chose qui est au-delà de cette diversité et qui réalise une synthèse. Je suis, vous voyez, auteur de la synthèse de la diversité grâce à la subjectivité transcendantale. Puisque c'est moi qui affirme et qui nie. Donc je suis au-delà de l'affirmation et de la négation. Donc le principe de contrariété est dépassé, de contradiction est dépassé, puisque c'est moi qui affirme. Subjectivité transcendantale. Tandis que dans une pensée analogique, je dirais, qu'est-ce qui est affirmé? Qu'est-ce qui est nié? Je regarde donc le contenu de la pensée avant tout. Et je vois que ce qui est affirmé, c'est l'être. Ce qui est nié, c'est le non-être. Or, l'être et le non-être s'excluent. Tandis que si je regarde celui qui affirme et celui qui nie, il y a quelque chose de commun. Je peux donc aller au-delà de l'affirmation et des négations en voyant celui qui est capable de nier, celui qui est capable d'affirmer. Et je me découvre comme source de contradiction. Subjectivité transcendantale. Je suis capable de nier, capable d'affirmer. Et c'est moi qui affirme et qui nie. Donc vous voyez, c'est très important de saisir ces éléments communs d'une démarche dialectique et d'une démarche analogique. De voir ce qu'il y a de commun et en même temps ce qu'il y a de très divers. La très grande diversité proviendra de la finalité. Qu'est-ce que je recherche en pensée dialectique? Qu'est-ce que je recherche en pensée analogique? Ce que je recherche dans une pensée dialectique, ce n'est pas premièrement la vérité, puisque j'ai quitté le réel. Et c'est ma capacité d'unir des contradictoires qui m'intéressent. Parmi les réalités existantes, c'est l'homme. de voir si ma pensée... qui implique le point de vue dialectique est capable d'aller toujours plus loin dans le point de vue de la synthèse. Et la synthèse a ce privilège tout à fait particulier de me fortifier dans mes certitudes. Donc c'est la certitude qu'on cherche plus que la vérité. Et ceci, on le reconnaît chez Descartes. Et c'est dit explicitement chez Descartes. La question, qu'est-ce que c'est que la différence? Que peut-elle nous apporter? Ne sent-elle? Parce que c'est ça qui intéresse en premier lieu. C'est la différence en vue de la synthèse. Oui. C'est la différence en vue de la certitude. Alors, la différence est importante lorsque je suis en face d'opinion. Je m'en sers dialectiquement en vue de nouveaux problèmes. Ça. Oui. parler de votre tempérament. Comment l'avez-vous étudié? Vous avez un tempérament sanguin. Vous avez en vous des forces étonnantes. Qu'est-ce que vous en avez fait? Alors, quelqu'un qui a un caractère, c'est celui qui a su utiliser son tempérament. Et qui n'est pas l'esclave de son tempérament. Et qui l'a dominé grâce à ce qu'on appelle les vertus. Qui développe.